France, une démagogie anti-immigrée qui vise à séduire les électeurs d'extrême droite. La mort tragique fin septembre de 6 immigrants dans l'incendie du squat qu'ils occupaient à Pantin, Seine-Saint-Denis, est le dernier en date des drames, entre parenthèses connus, provoqués par la politique d'immigration du gouvernement. Il survient après des mois de traque contre les Roms, un peu partout dans le pays, désignés à la vindicte populaire dans les discours gouvernementaux, expulsés sans relâche des abris précaires et insalubres qu'ils aménagent, privés d'un accès élémentaire à des soins médicaux, dans l'incapacité de scolariser leurs enfants. Repoussés dans des caches de plus en plus sordides, ils sont eux aussi victimes d'accidents parfois mortels, comme à Orly en février 2010, où deux enfants avaient péri dans l'incendie de la cabane de leur famille. Il survient après la campagne de harcèlement des quelques milliers de jeunes Tunisiens ayant profité de l'ouverture relative des frontières de la Tunisie pour fuir le chômage et la misère. Tandis que Sarkozy claironnait son soutien au gouvernement de transition en Tunisie et bombardait la Libye sous prétexte d'imposer la « entre guillemets démocratie » à coups de missiles, sa police chassait impitoyablement tous ceux qui venaient tenter leur chance en France. Parqués dans des squares, refoulés à Vintimille ou à Nice, ces jeunes dans la force de l'âge, prêts à travailler, parfois qualifiés, n'ont eu le choix qu'entre s'enfoncer dans la clandestinité, fuir plus loin en Europe ou revenir à la case départ. La démagogie anti-immigrée, une continuité chez Sarkozy. S'il y a un terrain où Sarkozy a montré de la suite dans les idées, tant pour accéder à l'Élysée que depuis plus de 4 ans qu'il y est installé, c'est bien celui de la politique de l'immigration et de la démagogie contre les étrangers, quand ils sont pauvres, évidemment. Pendant ses années à la tête du ministère de l'Intérieur, Sarkozy s'était déjà bâti une image de fermeté sur le dos des travailleurs immigrés, avec ou sans papier. Cette posture, avec ses déclarations du type « il faut nettoyer la racaille au Karcher » et ses actes comme la loi de 2006 qui instaurait l'immigration choisie, entre parenthèses choisie pour le patronat, pas pour les immigrants, lui avait permis de siphonner une partie de l'électorat le plus raciste et xénophobe, passer d'un vote Le Pen à un vote Sarkozy. Dès son premier gouvernement, en mai 2007, il avait créé un ministère spécial chargé de l'immigration et de l'identité nationale. Hortefeux fut le premier titulaire de ce ministère avant de prendre du galon au ministère de l'Intérieur en 2009, laissant sa place à Besson, ce transfuge socialiste prêt à toutes les bassesses pour être admis dans son nouveau clan. Dans le registre des petites crapuleries, Hortefeux n'a jamais hésité à flatter les plus réactionnaires parmi les électeurs, au point d'être condamné en 2010 pour injure raciale par le tribunal de Paris après sa saillie devant un jeune militant UMP maghrébin. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Fin de citation. Au-delà de ses propos racistes, Hortefeux a mis en œuvre la politique de Sarkozy en programmant le renvoi de 25 000 étrangers chaque année à la frontière. Et de fait, le nombre de reconduites à la frontière est passé de 10 000 en 2002 à 23 000 en 2007 pour atteindre 28 000 en 2008. Pour y parvenir, le gouvernement a instauré des quotas par département. La police a multiplié les contrôles à la sortie des stations de métro, dans les quartiers populaires, sur les lieux de travail, jusqu'à la sortie des écoles, obligeant ceux qui n'ont pas de papier à se terrer chez eux ou à faire de longs détours pour éviter les contrôles. Cette chasse aux sans-papiers a provoqué plusieurs fois des drames. Des enfants ou des adultes tombant accidentellement ou se jetant volontairement par la fenêtre en voyant débarquer la police à leur domicile. Pour parvenir au quota imposé au préfet, les Roms, venus de Bulgarie et surtout de Roumanie, ont été systématiquement expulsés alors que, comme citoyens d'un pays membre de l'Union européenne, ils ont le droit de revenir autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils ont représenté jusqu'au tiers des étrangers renvoyés. 9 000 en 2010 pour 15 000 à 20 000 Roms présents en France. Alternant la carotte et le bâton, le gouvernement verse une aide au retour dérisoire de 300 euros aux Roms qui acceptent de retourner dans leur pays d'origine. La traque contre les Roms. À l'été 2010, pris d'un véritable délire, Sarkozy, Hortefeu et les porte-flingues de l'UMP ont transformé les Roms en boucs émissaires de tous les maux de la société. Alors empêtrés dans l'affaire Woerth-Bettencourt, ils se sont emparés de deux faits divers, le saccage d'une gendarmerie dans le Loir-et-Cher par des gens du voyage, qui n'étaient, soit dit en passant, ni Roms ni étrangers, après la mort de l'un des leurs tué par la police, et une flambée de violence dans un quartier de Grenoble, pour se déchaîner contre les étrangers en général et les Roms en particulier. Dans un discours prononcé le 30 juillet 2010, Sarkozy a annoncé de nouveaux moyens dans la répression de ceux qu'il nomme des « entre guillemets étrangers délinquants ». Outre une proposition de loi rapidement abandonnée, visant à déchoir de leur nationalité française les assassins de policiers naturalisés depuis moins de 10 ans, Hortefeu a signé une circulaire ciblant spécialement les Roms, ordonnant la destruction d'une série de campements de Roms ainsi que l'expulsion de familles entières. Même la commissaire européenne chargée de la justice et des droits fondamentaux, Viviane Reding, s'est sentie obligée de critiquer publiquement cette circulaire, déclarant en septembre 2010 « C'est une honte. Je pensais que l'Europe ne serait plus le témoin de ce genre de situation après la Seconde Guerre mondiale. » Il ne faut plus de déportations en masse, plus de gens stigmatisés pour leur appartenance à un groupe ethnique. Fin de citation. C'est ainsi que depuis 18 mois, des milliers de Roms, fuyant la misère, la relégation dans des ghettos sordides, les actes de violence raciste dans leur pays d'origine, la Roumanie ou la Bulgarie, sont harcelés par les autorités françaises qui veulent les empêcher à tout prix de s'installer dans ce pays. Ils sont repoussés de bidonville en squat sordide, sans eau ni électricité, sans ramassage des ordures, sans accès aux moindres soins médicaux, victimes d'intoxication, de maladies de la misère comme la tuberculose, dans l'impossibilité de scolariser ou même de faire vacciner leurs enfants contre la diphtérie, le tétanos, la polio, tous vaccins pourtant obligatoires. Comme le déclarait l'un d'eux, expulsé de son campement dans la région grenobloise, on vit comme des chiens. Le cas des Roms montre le caractère propagandiste, publicitaire de la politique du gouvernement. Des ministres aux préfets en passant par la police, toutes les autorités savent parfaitement que les Roms expulsés de leurs abris de fortune au prix de brutalité, de l'éparpillement de leurs maigres biens, parfois d'accidents graves, et chassés du territoire, reviendront quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ils n'ordonnent leur expulsion que pour faire du chiffre. Même les syndicats de policiers ont fini par se plaindre de cette politique des résultats qui les empêche de s'occuper des délinquants. Pour cautionner cette politique inique, Sarkozy a trouvé un nouveau soutien en la personne d'Arnaud Klarsfeld, fraîchement nommé à la tête de l'Office français de l'immigration et l'intégration. Disputant l'ignominie à la désinvolture, Klarsfeld a justifié la politique du chiffre et l'objectif de 30 000 reconduites à la frontière en déclarant fin septembre sur France Inter « S'il n'y a pas de politique du chiffre, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'aiguillon sur les préfets, alors les préfets ne font pas ce travail de les renvoyer. » Non pas vers la mort, non pas vers Auschwitz. Et d'ajouter, les Roms qui sont renvoyés, disons en Roumanie, vont vers un pays où ils sont moins heureux qu'en France, mais ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent rester en France. Fin de citation. Cet avocat Bobo est le petit-fils d'un émigré roumain mort en déportation à Auschwitz et le fils du chasseur de nazis Serge Klarsfeld. Cela ne le protège pas de déclarations iniques. Des dérapages contrôlés pour flatter l'électorat d'extrême droite. En février dernier, Hortefeux, trop usé et de moins en moins présentable, a été remplacé au ministère de l'Intérieur par Guéant. Il n'y a plus désormais de ministère de l'Immigration, mais la politique en la matière n'a pas changé d'un pouce. Derrière son allure de haut fonctionnaire propre sur lui, plus policé et civilisé que son prédécesseur, Guéant joue le même rôle de rabatteur de voix du Front National vers l'UMP. Il multiplie à son tour les petites phrases à connotation raciste ou xénophobe. Dès sa nomination, il en a remis une couche contre les Roms, s'en prenant cette fois aux mineurs qui mendient dans le métro parisien, qu'ils traitent en délinquants alors qu'ils sont d'abord des victimes de la misère sociale de leur propre famille, quand ce n'est pas des victimes de mafias organisées. Après les Roms, ce sont les Comoriens qu'il a jetés en pâture, déclarant à la radio début septembre « Il y a à Marseille une immigration comorienne importante qui est la cause de beaucoup de violences. Je ne peux pas la quantifier. » Fin de citation. Tous ces propos grossièrement mensongers ne sont évidemment pas un dérapage individuel. Ils s'inscrivent dans un scénario calculé qui vise à renforcer l'amalgame entre immigration et criminalité auprès de la fraction de l'électorat la plus xénophobe. Ils sont destinés d'une part à masquer les véritables causes de la montée de la misère, de la dégradation, parfois terrible, des conditions de vie dans les villes populaires, de la ghettoisation de quartiers entiers avec la montée des trafics, du racket et l'insécurité pour les habitants que cela implique. D'autre part, il s'agit de surenchérir sur l'extrême droite pour tenter de conserver les électeurs qui avaient changé de boutique électorale en 2007 mais qui pourraient retourner chez Le Pen en 2012, déçus par la politique de Sarkozy sur le terrain économique. La droite cherche à montrer qu'elle est plus efficace que l'extrême droite face à l'immigration puisqu'elle ne se contente pas de discours mais qu'elle agit. Que cette démagogie raciste profite finalement dans 6 mois à Sarkozy ou à Le Pen, c'est un poison mortel distillé à haute dose parmi la population. Des lois de plus en plus scélérates. Dans sa panoplie de mesures anti-immigrés, Guéant a annoncé vouloir changer, entre parenthèses une nouvelle fois, les règles en matière de droit d'asile, jugées selon lui trop généreuses, et freiner, encore, le regroupement familial pourtant déjà très restrictif. Depuis le milieu des années 80, les lois relatives à l'accueil et au séjour des étrangers, à l'acquisition de la nationalité française, n'ont cessé de se durcir. Et les démarches administratives pour le renouvellement des papiers officiels, cartes de séjour ou même cartes d'identité pour ceux qui sont nés à l'étranger ou de parents étrangers, n'ont cessé de s'alourdir. Mais depuis 2002 et l'arrivée de Sarkozy à l'intérieur, c'est un festival. Pas moins de 7 lois sur l'immigration se sont succédées. Et il faut encore ajouter les lois sur la sécurité intérieure, les lois dites LOPSI, dont nombre de dispositions visent directement les étrangers. Ces lois ont fini par rendre quasiment impossible la régularisation de sans-papiers vivant déjà en France, tant les conditions à remplir sont drastiques. Elles empêchent de fait le regroupement familial puisque les conditions de ressources imposées pour pouvoir accueillir sa famille peuvent aller jusqu'à 1,33 fois le SMIC, un revenu dont nombre de familles populaires, immigrées ou pas, ne disposent pas. La loi impose depuis 2007 aux candidats à l'immigration et au regroupement familial un test de connaissance de la langue française avant même leur arrivée en France. Et cela vise des enfants ou des conjoints qui vivent par définition à l'étranger et qui n'ont pour la plupart pas les moyens ou la possibilité d'aller à l'école. En réalité, ce test est d'abord un motif administratif supplémentaire pour justifier un refus arbitraire aux candidats à l'immigration. Cette même loi de 2007 instaurait un contrat d'accueil et d'intégration entre l'État et la famille. En gros, les parents immigrés sont a priori suspectés de ne pas savoir éduquer leurs enfants et ceux-ci sont considérés comme des délinquants en puissance. Pire, lors du renouvellement de la carte de séjour des parents, le comportement de leurs enfants admis sur le territoire peut être examiné. Les lois n'ont cessé de durcir les conditions de naturalisation par mariage, imposant un véritable flicage des nouveaux couples avec enquête de voisinage et visite domiciliaire de la police. La loi a inventé la notion de « mariage gris » dès que l'un des membres d'un couple est étranger. En 2010, le député UMP du Vaucluse, devenu depuis sous-ministre des Transports, Thierry Mariani, a proposé un amendement visant à restreindre l'accession à l'aide médicale pour les étrangers, l'AME, déclarant « La France ne peut pas accueillir tous les malades du monde ». Fin de citation. Un forfait de 30 euros a ainsi été instauré. On peut noter au passage que ce Mariani, si dur avec les étrangers quand ils sont pauvres et malades, est monté plus d'une fois à la tribune de l'Assemblée nationale pour réclamer des allègements d'impôts pour ses amis patrons, dont le groupe plasturgique Mecaplast, basé à Monaco. C'est lui encore qui a proposé d'exonérer de poursuites les patrons qui emploieraient des étrangers en situation illégale. Selon les associations humanitaires, moins de 1% des étrangers en France viennent dans l'intention de se faire soigner. Mais avec une telle mesure, les étrangers malades retarderont leurs soins, aggravant leur pathologie jusqu'à une hospitalisation en urgence qui coûtera encore plus cher à la collectivité. Sans parler des risques de contamination avec le développement des maladies de la misère, comme la tuberculose, qui réapparaît dans un nombre croissant de quartiers pauvres des grandes villes. Toutes ces lois rendent la vie quotidienne de tous les étrangers, même ceux qui ont des papiers, toujours plus difficile. Elles rallongent jusqu'à les rendre interminables les procédures pour que des couples et des familles puissent vivre ensemble. Elles transforment le renouvellement de la carte de séjour en période d'angoisse, en parcours du combattant, multipliant les frais, les attentes devant les guichets de l'administration. Elles rendent encore plus précaire la vie de tous les immigrés. La lutte contre l'immigration légale, quand la démagogie se heurte aux intérêts du patronat. La lutte contre l'immigration clandestine ayant atteint ses limites, Guéant a déclaré fin mai vouloir s'en prendre à l'immigration légale. Il veut ramener de 200 000 à 180 000 le nombre des immigrants légaux acceptés chaque année dans le pays. Mais sur ce nombre, entre parenthèses très faible au demeurant pour un pays de 65 millions d'habitants, moins de 30 000 viennent pour des raisons économiques, la majorité venant au titre du regroupement familial ou simplement pour faire des études. Cette baisse de l'immigration économique ne changera presque rien au flux migratoire. Elle est d'abord un nouvel effet d'annonce. Elle se heurte en outre aux intérêts du patronat qui a besoin de travailleurs immigrés prêts à accepter des salaires inférieurs et des conditions de travail particulièrement pénibles dans plusieurs secteurs comme la restauration, le BTP, le nettoyage ou l'agriculture maraîchère. Laurence Parisot, porte-parole du MEDEF, s'est très vite démarquée de la proposition de Guéant, se découvrant au passage un peu d'humanité intéressée en déclarant « Restons un pays ouvert qui profite du métissage ». Fin de citation. Signe des réticences des milieux patronaux aux annonces de Guéant, Le Figaro donnait le 26 mai la parole à un démographe de l'INED qui affirmait « Les employeurs espèrent plutôt un assouplissement des règles en vigueur car ils ont besoin de cette main-d'œuvre étrangère ». Et ajoutait « autochtones et immigrés n'occupent pas les mêmes types d'emplois et se font peu concurrence. Le Parisien, quant à lui, consacrait sa une à une enquête commandée par le ministère des Affaires sociales. Elle montrait l'apport des travailleurs étrangers dans les comptes publics. Tandis que les étrangers, entre guillemets, rapportent quelque 60 milliards d'euros par an sous forme de cotisations aux caisses de sécurité sociale, de retraite, sous forme d'impôts directs ou indirects, ils ne, entre guillemets, coûtent que 48 milliards en termes de dépenses de santé, d'indemnités chômage, de pensions de retraite. Les travailleurs étrangers sont en effet majoritairement actifs et nombre d'immigrés âgés, rentrés dans leur pays d'origine, ne touchent pas leur pension de retraite. La même étude indiquait que nombre de postes, y compris qualifiés, ne seraient pas pourvus sans l'apport de l'immigration. Et cette enquête ne parlait pas, évidemment, de toutes les richesses créées année après année par la sueur et l'exploitation de ces travailleurs immigrés, ni des profits accumulés sur leur dos par les patrons qui les emploient. La gauche a usé des mêmes ficelles anti-immigrés. À bien des égards, Sarkozy n'a fait que poursuivre la politique commencée par ses prédécesseurs, ceux de droite comme Pasqua et Debré, mais aussi ceux de gauche quand ils étaient au gouvernement. Après quelques gestes, comme une régularisation de 130 000 sans-papiers entre 1981 et 1983, la gauche au gouvernement n'a cessé depuis le milieu des années 80 de présenter l'immigration comme un, entre guillemets, problème. Rappelons les propos de Rocard quand il était Premier ministre de Mitterrand à la fin des années 80 et abondamment repris depuis par toute la classe politique, selon lesquels la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Édith Cresson, succédant à Rocard, ironisait, elle, sur les charters, terme utilisé par Pasqua entre 1986 et 1988 pour désigner les avions spéciaux affrétés pour expulser des étrangers en situation irrégulière. Pour Édith Cresson, organisant elle-même des expulsions, les charters, ce sont des gens qui partent en vacances avec des prix inférieurs. Là, ce sera totalement gratuit et ce ne sera pas pour des vacances, ce sera pour reconduire des gens dans leur pays lorsque la justice française aura établi qu'ils n'ont pas le droit d'être chez nous. Fin de citation. C'est encore sous son gouvernement que furent promulguées les circulaires qui interdisaient aux demandeurs d'asile de travailler, les obligeant soit à devenir des travailleurs clandestins, soit à survivre de l'assistance. C'est son gouvernement qui instaura les, entre guillemets, zones de transit, permettant de retenir pendant 20 jours des étrangers refoulés aux frontières. En 1998, Chevènement, ministre de l'Intérieur de Jospin, n'a régularisé que 90 000 étrangers en situation irrégulière sur les 130 000 qui en avaient fait la demande, suffisamment confiants dans les promesses électorales de Jospin pour fournir leur adresse aux préfectures et donc à la police. Il est significatif qu'aucun des candidats à la primaire socialiste n'ait promis une régularisation un peu large des étrangers en situation irrégulière. Au mieux, certains n'envisagent qu'une régularisation au cas par cas, c'est-à-dire après un parcours du combattant administratif, ce que fait déjà la droite, ne serait-ce qu'après la lutte acharnée des sans-papiers en 2008 et 2009. Certains candidats socialistes, Ségolène Royal ou Manuel Valls, ont ouvertement approuvé le refus du gouvernement Fillon d'accueillir les migrants tunisiens. Si le Parti socialiste a reparlé du droit de vote pour les étrangers, c'est seulement pour les élections municipales. Cette promesse, un minimum pour des personnes qui vivent ici, créent des richesses, paient des impôts, ne coûte pas un centime à la bourgeoisie. Rappelons qu'elle figurait déjà dans les propositions du candidat Mitterrand en 1981. Les étrangers l'attendent toujours. La crise renforce partout la démagogie contre les travailleurs immigrés. Si tous les gouvernements ont pu utiliser depuis 20 ans cette démagogie anti-immigrés, c'est parce que la crise du capitalisme a jeté des millions de travailleurs hors de leurs usines et qu'elle a mis en concurrence tous les travailleurs pour gagner leur vie. Il est significatif que le entre guillemets problème de l'immigration soit apparu dans les années 80 avec le développement du chômage de masse. La nouvelle phase aiguë de la crise depuis 2008, avec son cortège de licenciements, et parce qu'elle touche désormais des fractions de la petite bourgeoisie, petits patrons, commerçants ou agriculteurs, lui fournit un nouveau terreau. Et cela peut encore s'aggraver. Parce que les immigrés sont la fraction la plus faible de la classe ouvrière, les gouvernements tentent sans cesse de les désigner comme boucs émissaires pour faire accepter à l'ensemble de la classe ouvrière les sacrifices, les salaires bloqués, les licenciements. C'est la même politique qui consiste à désigner les travailleurs des pays les plus pauvres, en Europe de l'Est ou en Chine, contraints d'accepter des salaires très bas, comme responsables des fermetures d'usines dans les pays impérialistes. C'est aussi la même politique qui consiste à mettre en concurrence les travailleurs du public avec ceux du privé, ceux qui ont des contrats stables avec ceux qui n'ont que des contrats précaires ou des missions d'intérim. Cette politique démagogique est menée par les gouvernements de toute l'Europe. Comme ils ne peuvent rien faire contre la crise, qu'ils ne veulent s'en prendre ni à ses causes ni à ses effets, ils utilisent partout la même ficelle en s'en prenant aux étrangers pauvres. L'Europe de l'espace Schengen est ainsi devenue une véritable forteresse entourée de murailles, virtuelles ou bien réelles, pour empêcher l'arrivée d'immigrants. Aucune loi n'arrêtera l'immigration. Mais aucune loi, si dure soit-elle, n'empêchera des hommes et des femmes de fuir la misère, l'avenir bouché ou les violences qu'ils subissent dans leur pays d'origine. Les lois et les barrières ne feront que rendre encore plus abominables les conditions dans lesquelles les candidats à l'immigration tentent leur chance. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on découvre que 20, 30 personnes, parfois plus, ont péri en tentant de rejoindre Lampedusa depuis le Maghreb dans une embarcation de fortune ou en rejoignant les Canaries depuis les côtes du Sénégal ou de Mauritanie. En 10 ans, il y a eu plus de 4000 morts dans le seul détroit de Gibraltar. Les frontières orientales de l'Europe sont de plus en plus hermétiques. Des milliers de migrants d'Asie ou du Moyen-Orient font un détour par la Russie ou par l'Ukraine pour essayer de gagner un pays de l'Union européenne. Ce sont des risques, de longues marches de nuit, des voyages enfermés dans les doubles parois de conteneurs ou de camions, sans eau, en respirant de l'air vicié. Et quand les obstacles deviennent trop grands sur une route, les candidats à l'immigration en cherchent une autre, prenant encore plus de risques, allongeant le trajet. Chaque durcissement de la loi implique plus de dangers, des exigences financières plus grandes de la part des passeurs, des sacrifices et des risques encore plus élevés pour les candidats à l'émigration et leurs familles restées au pays. Mais rien n'arrêtera l'immigration parce que c'est la misère ou les guerres qui poussent ainsi chaque année des milliers d'hommes et de femmes venant d'Afrique ou d'Asie à tenter de pénétrer dans cette Europe développée où même la vie traquée d'un sans-papier est moins pire que celle qu'il laisse au pays. En réalité, tant qu'on n'aura pas débarrassé la planète d'un système de production qui réduit au chômage et à la misère des millions d'êtres humains, qui en fait trimer d'autres dans des conditions insupportables, tant que les puissances impérialistes continueront de maintenir leur ordre social à l'aide de dictateurs sanguinaires en provoquant des guerres locales ou des massacres ethniques, les opprimés chercheront ailleurs de meilleures conditions de vie. Travailleurs français immigrés, les mêmes intérêts de classe. Le pire danger de la démagogie anti-immigrée, c'est qu'elle divise les travailleurs entre eux. La fraction immigrée des travailleurs est la plus vulnérable, occupe les emplois les plus difficiles, les plus dangereux, doit accepter les salaires les plus bas. Le renforcement des lois anti-immigrés, la traque contre les sans-papiers, ont d'abord un effet économique. Les immigrés, surtout illégaux, sont obligés d'accepter des boulots et des salaires toujours pires. Ils peuvent encore moins se défendre face aux patrons, et cela tire vers le bas les salaires et les conditions de l'ensemble de la classe ouvrière. C'est pourquoi, Au-delà des aspects inhumains et révoltants de la répression contre les immigrés, ce sont des raisons de classe qui doivent pousser les travailleurs et les militants révolutionnaires à s'opposer à toutes les attaques contre les travailleurs immigrés et à combattre la xénophobie, y compris quand elle sévit dans les rangs du monde du travail. Le sort et la situation des travailleurs immigrés, avec ou sans papier, doivent intéresser tous les travailleurs qui vivent dans ce pays. Les travailleurs n'ont pas de patrie, disait déjà Marx il y a plus de 150 ans. Combattre les lois scélérates, les expulsions et la traque des étrangers est une façon de défendre les conditions d'existence de l'ensemble du monde du travail. C'est pourquoi ce combat ne doit pas se mener sur le seul terrain humanitaire, celui de la morale, de l'antiracisme ou du droit d'asile, ni sur le terrain de l'opposition à la démagogie raciste d'un Sarkozy. Les travailleurs immigrés, quel que soit leur statut juridique et leurs origines, font partie intégrante de la classe ouvrière, de ce prolétariat qui fait fonctionner l'économie capitaliste partout sur la planète. C'est en tant que fraction de la classe ouvrière qu'ils sont attaqués. Il est nécessaire que toute la classe ouvrière réagisse quand telle ou telle catégorie spécifique parmi elles est attaquée. La classe ouvrière subit actuellement une offensive tout azimut de la part de la bourgeoisie. Si elle ne veut pas payer les conséquences de la crise du capitalisme, elle doit se défendre, imposer la conservation de tous ses emplois, de ses revenus. Pour y parvenir, elle doit aussi refuser de se laisser diviser. Préparer ses luttes, chercher à les généraliser en un combat de l'ensemble de la classe ouvrière contre la dictature des banques et des capitalistes sur toute la société, c'est la seule façon de défendre le sort de l'ensemble des travailleurs, immigrés ou pas. 23 octobre 2011.